Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'émettre aujourd'hui en direct de Pont-Riche, au nord de la vallée de la Roya. Au cours des deux derniers jours, nous avons pu y organiser un camp sonore en collaboration avec l'association des Ouistiti de Pontérico, représentée à cette table par Géraldine Paoli, le laboratoire de recherche en art Locus Sonus de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, représentée par Peter Sinclair, et l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, rattaché au CNRS et à Aix-Marseille Université, que je représente aujourd'hui. Je m'appelle Cédric Parizeau, je suis anthropologue au CNRS et je travaille principalement sur Israël-Palestine et les questions de mobilité des frontières. Ce Sandcamp que nous avons organisé au cours des deux derniers jours a permis d'organiser, de samedi 7h du matin à dimanche 7h, la retransmission du Réveil 2023. Cet événement organisé chaque année depuis 2014 par le collectif artistique londonien Sandcamp permet d'écouter les chants des oiseaux au lever du soleil tout autour de la Terre. Cette retransmission est possible grâce au micro ouvert déployé par le projet Locus Stream Open Microphones qui a été lancé en 2006. Il est possible également grâce au micro ouvert et au Streambox qui sont créées ou ouvertes par d'autres collectifs artistiques et scientifiques, de streamers, et bien sûr, par le travail de mixage opéré pendant ces 24 heures par les artistes du collectif Sandcamp. Suite à l'organisation de cet événement, nous avons jugé opportun, avec Géraldine Paoli et l'association des Ouistiti de Pontérico, d'organiser un plateau radio, non seulement pour revenir sur l'histoire et la dimension écologique du projet artistique des micros ouverts, amorcé au début des années 2000 par le laboratoire de recherche en art Locus Sonus, mais aussi pour donner la parole à des habitants et acteurs de la vallée qui, au travers de leurs expériences, de leur sensibilité, nous donnent à entendre la singularité de la vallée de la Roya, frontalière de l'Italie. Leurs interventions s'étaleront sur une vingtaine de minutes et seront accompagnées par Géraldine et par moi-même. Entre chacune d'entre elles, vous aurez le plaisir d'écouter des paysages sonores qui ont été réalisés par Yoav Yaron, étudiant en cinquième année de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Je passe maintenant le micro à Géraldine Paoli qui va vous présenter les différents intervenants.
L'intention est de présenter les différents intervenants. Il y aura Anna Maria Castrion-Banea, paysanne, habitante de la Brigue et, je vais préciser, colombienne aussi. Peter Sinclair, artiste, professeur d'enseignement artistique à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, cofondateur du laboratoire de recherche artistique Locus Sonus. Nous avons eu l'occasion d'accueillir Marie Duget de l'association Curieux de Nature qui nous a proposé un atelier autour des hapeaux ce matin. C'est une association qui déploie l'environnement, qui est ouvert pour tous, qui déploie aussi des compostages partagés et qui a une intention particulière d'être et de vivre ensemble. Nous aurons ensuite Nicoletta Bianchi, archéologue, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, préhistorienne, qui fait des visites dans la vallée des Merveilles, qui vient de l'Italie, j'en dirai plus tout à l'heure. Nous aurons l'occasion aussi d'entendre Guy Franca, psychologue, clinicien, fondateur de la Fondation internationale de l'éthique à Firenze. Je lui demanderai de prononcer en italien la bonne forme, qui développe un modèle de l'éthique et des relations humaines et qui fait partie du collectif des Ouistiti. Julie Gobi, artisane de la vallée, qui fait partie du collectif des Ouistiti Pontérico et qui est initiatrice. Géraldine Maupou, enseignante de FLE, CNV, photo-vidéaste, qui a eu des expériences de collectifs diverses et variées et qui fait partie du collectif des Ouistiti. Clarisse Bachelier, qui est sonothérapeute, qui aussi a eu des expériences diverses et variées dans la vallée de la Roya et qui fait partie du collectif des Ouistiti. Ludivine Berger, animatrice de la Confédération paysanne du 06, ex-bergère, et qui fait aussi partie du collectif des Ouistiti Pontérico. Jean-Pierre Desrobert, décorateur, qui fait partie du collectif des Ouistiti Pontérico. Brita Astre, agricultrice retraitée, qui va nous partager des témoignages de l'arrivée des habitants dans cette vallée. Et sûrement d'autres surprises. Je profite de la présence d'Anna Maria et de son passage pour faire une petite intrusion au programme que nous avions défini. Et merci de ta présence. Et que pourrais-tu nous préciser par rapport à la notion de la paysannerie, d'être paysanne pour toi, et particulièrement dans la vallée de la Roya?
Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis paysanne depuis 2007, date à laquelle je suis arrivée dans la vallée de la Roya, à la Brigue. J'aime bien parler de paysannerie un petit peu pour replacer l'agriculture dans quelque chose d'un peu plus humain. La paysannerie, pour moi, c'est le lien de celui ou de celle qui cultive la terre ou qui s'occupe des animaux ou qui fait l'un ou l'autre, ou les deux, en lien avec le territoire, avec la commune, avec la ville, avec l'agglomération, vraiment en lien avec l'endroit où la personne décide de s'installer. Et qui fait vivre du coup ce lieu-là, le lieu qui la fait vivre et qu'elle, elle fait vivre également. J'aime bien cette idée de lien au sol, à la terre, au pays, l'idée me plaît beaucoup. Et je trouve que dans les discours actuels, on parle d'agriculture et ça devient une notion qui perd un peu le lien justement à la terre, au vivant. Donc voilà, la paysannerie pour moi c'est un peu tout ça, le lien qui est fait avec les animaux, la terre, les hommes et les ressources qui nous font vivre.
Et comment est-ce que tu pourrais nous revenir sur ton expérience, sur la manière dont tu es arrivé dans la vallée et comment tu as développé ce lien particulier avec la vallée et à travers ton histoire?
Alors moi je suis arrivée en 2007 par hasard. Je faisais des études de psychologie, j'étais en quatrième année et j'habitais à l'île de la Réunion. Et un ami très proche m'a parlé d'un projet. Il y avait une ferme qui existait à la Brigue, dans la vallée de la Roya, en collectif agricole autogéré, qui cherchait un collectif qui reprendrait le lieu parce qu'il déménageait. Et du coup, cet ami, il est tombé sous le charme de cette annonce, il m'en a parlé. Moi, je ne me faisais pas trop d'illusions, pas trop d'idées, parce que je ne me voyais pas forcément dans l'agricole. Et puis, on a monté le projet quand même, dans nos têtes, sur papier. Et puis, on nous a invités à venir rencontrer les gens qui habitaient et qui allaient quitter le lieu pour présenter notre projet. Et je suis venue pour la première fois. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la route, je tombais sous le charme. Mais vraiment, littéralement. J'avais des sensations corporelles très fortes. J'avais des frissons. Et arrivé sur le lieu, j'avais une émotion que je ne pouvais pas décrire. Et on est monté un peu plus haut que la ferme, là où ils emmenaient les bêtes en transhumance l'été. Et c'est devenu une certitude. Je voulais vivre là. J'avais la conviction que je le ferais. En élevage de brebis, qui était l'idée du départ. Mais au fond, pour moi, le projet, il pouvait devenir tout autre chose. Et j'étais autant intéressée par le faire. Finalement, notre projet, il a été élu. Et on est venu s'installer quelques temps plus tard. Et j'ai continué mes études de psychologie un peu à distance. Et puis à un moment, j'ai vu que je ne pouvais pas faire les deux. Et l'agriculture, c'était devenu quelque chose de vital. Le lien avec les animaux, beaucoup pour moi. Le fait d'élever des animaux laitiers que tu vois souvent, que tu touches souvent, ça a été un peu l'encre pour revenir à la terre. Et voilà, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis après, on faisait de la vente directe. le fait d'être en lien avec les gens sur les marchés, pour moi, c'était l'union de tout ce qui était parfait. Vivre en montagne, être en lien avec les animaux, pâturer avec eux, les accompagner, d'aller rencontrer les clients, raconter ce qu'on faisait et proposer des produits de qualité. C'était quelque chose qui, pour moi, avait beaucoup de sens. Et depuis, j'ai changé un peu. Je fais plus, j'ai plus d'animaux laitiers. Mais j'éprouve autant de plaisir à faire des produits de qualité et de nourrir les gens à travers les produits, à travers le lien que je propose également.
Et qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui ?
Eh bien, avec mon compagnon associé, on a une ferme où on produit des céréales qu'on transforme en farine. On produit du pain au levain, on fait de la farine, on fait des pâtes sèches, on fait des légumes de saison et on a des poules pondeuses et des poulets de chair. Et tout ça à la brigue et en bio depuis le départ.
Et un jardin.
Et un jardin.
Et tu parlais de ton rapport sensible à la transmission et au fait de à la fois être tu peux aller plus loin dans nourrir en fait les gens sur les différents niveaux et, si tu peux aussi aller explorer la notion de semence par exemple.
Je pense que la notion de partage elle est chez moi elle est très intuitive. J'ai l'idée que expérimenter des choses, une fois que ça te plaît, tu as envie de le partager avec les autres et de leur faire découvrir ou d'approfondir un peu cette chose-là. Et je pense qu'on n'invente pas l'eau chaude. On a une histoire assez longue de l'humanité. On est héritier de ce qui a été fait avant nous et j'ai l'impression que le fait de partager, c'est de redécouvrir quelque chose qui est enfoui en nous, dans notre inconscient collectif et dans notre inconscient singulier aussi. Et j'aime bien l'idée de partager parce que j'ai l'impression que c'est ça la vie. Si tu découvres des choses super, que tu touches du doigt des choses super qui te font ressentir... sentir déjà bien et bien vivant, je pense que ça perd son charme si tu gardes tout ça que pour toi. Du coup, j'aime bien cette idée de transmettre de la nourriture de qualité, par exemple. Ça fait partie des motivations premières, de garder, d'être héritier d'un lieu propre qui nous permet de boire de l'eau dans les ruisseaux, d'utiliser cette eau-là et qui va nourrir des légumes que derrière tu peux manger juste comme ça. Et aussi de sauvegarder en quelque sorte ce qui est déjà là, cette diversité folle dont on n'a pas conscience, des tomates de toutes les couleurs, de pommes de terre, des textures et des couleurs différentes. Et du coup, le travail, c'est d'ouvrir de l'espace pour ces semences-là dans nos champs, d'ouvrir un peu cet espace-là aussi dans les produits que l'on propose, d'où les pains un peu différents. On n'en fait pas 10 000 non plus, mais on essaye de garder cette notion de diversité et de nourrir par le partage. Ça reste, oui, une notion économique quand on vend nos produits, mais c'est aussi le partage de quelque chose qui nous nourrit, qui va au-delà même du produit, je trouve. Et puis la semence, j'ai l'impression qu'on a aussi un devoir de préservation, et pas dans le sens où je le garde que pour moi, mais je le cultive et je le propose aux gens, pour que du coup, il existe après nous. Que les semences qui nous nourrissent aujourd'hui, elles se nourrissent également de nos changements climatiques, de nos pratiques, et qu'elles soient encore là, pour nos enfants, les enfants des autres, les petits-enfants, etc.
J'en profite aussi, parce que c'est toi qui as initié, si j'ai bien suivi, le thème de l'eau pour la prochaine rencontre de la brebis brigasque. Mm-hmm. Est-ce que tu peux en parler de ça, de cette attention ?
Eh bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas, la fête de la brebis brigasque, c'est une fête agricole et artisanale qui a lieu tous les ans à la Brigue, le troisième dimanche du mois d'octobre, et qui a pour but de mettre à l'honneur un thème qui nous est cher, qu'on a envie de décortiquer pour le grand public. Et cette année, du coup, le thème, c'est l'eau. Donc, historiquement, on est quand même des vallées en lien avec l'eau, parce qu'on a normalement de la neige dans nos sommets l'hiver, parce qu'on a des rivières, du coup, qui nous traversent. Et puis après, la tempête Alex qui a eu lieu en 2020, on a été bouleversés dans nos cours d'eau et dans nos pratiques également. Et puis, sont suivies des périodes de sécheresse. Et l'eau, en tant que paysan et en tant qu'artisan et en tant que citoyen, en tant qu'humain, c'est la base. On peut tout avoir. Et si on n'a pas d'eau, et ben, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc là, l'idée, c'était de prendre ce thème-là pour qu'on collectivement on réapprenne ce que c'est que l'eau. Parce que c'est un peu facile d'ouvrir le robinet de l'avoir, mais j'ai l'impression qu'on a un peu oublié d'où ça vient. Ce que c'est réellement, comment la préserver, et puis aussi collectivement de se rappeler que c'est un bien commun, que c'est la base de nos existences, au-delà même de nos activités économiques, c'est ce qui nous fait vivre. Du coup, l'idée, c'est ça, c'est de revenir sur ce sujet-là, de nous réapproprier l'eau dans nos quotidiens, et puis souvent, ce qu'on connaît mieux, c'est ce qu'on préserve le mieux. Du coup, l'idée, c'est ça.
Alors moi je voulais revenir sur la question des semences. Quelle marge de manœuvre on a aujourd'hui quand on est dans l'agriculture pour justement développer, revenir sur d'anciennes formes de semences ou essayer d'entretenir certaines formes de semences alors qu'il y a des réglementations de plus en plus strictes, je crois, dans le domaine agroalimentaire. Qui fait que certaines semences sont possibles, d'autres ne le sont pas. Enfin, c'est ce que j'avais entendu dire. Alors, est-ce que c'est une question de profane ?
Alors, oui, on est les heureux héritiers d'un catalogue officiel en France. Que du coup, à mon sens, je ne suis pas une spécialiste des semences, mais je te raconte un peu comment je vois la chose. C'est qu'il y a eu un catalogue qui a été créé en même moment que l'agriculture est devenue une agriculture moderne. Donc il a fallu avoir des formes qui se prêtaient pour la grande distribution, chose qui n'était pas vraiment le cas avant. Souvent, on avait beaucoup, en France en tout cas, on avait plein de fermes et du coup les ventes se faisaient d'une manière un peu plus directe. Après-guerre, on a commencé du coup à avoir une agriculture plutôt industrialisée avec des circuits longs. Donc tu produis à un endroit, mais ça peut être vendu à des kilomètres plus loin. Et du coup, les semences, elles ont pris aussi ce chemin industriel où on a commencé du coup à catégoriser. Il fallait des tomates d'une certaine forme, d'une certaine taille pour que ça rentre du coup dans nos machines et aussi dans nos conditionnements. Et du coup, on a vraiment pris toute cette diversité qu'on avait avant et on l'a appauvrie. On a décidé que ce catalogue, c'était celui qui allait nous régir et que du coup, c'était à partir de ces semences-là qu'on allait produire. Et tout ce qui n'est pas rentré dans le catalogue, heureusement, rentre dans le non-catalogue. Ça a un autre nom, mais en gros, c'est non inscrit au catalogue. Donc, tu me demandes où est-ce qu'elle est notre marge de manœuvre. C'est une question de choix. Actuellement, t'as encore le droit de reproduire tes semences de ferme. Ce qui est un droit fondamental, parce qu'à la base, l'agriculture, ça a été ça. Nicoletta, peut-être plus tard, elle reviendra sur l'histoire, justement, de comment les hommes sont devenus sédentaires et comment, en fait, ils ont pris ce qu'il y avait dans la nature et ont commencé à le domestiquer, donc à reproduire des semences, à les planter, etc. Et du coup, la marge de manœuvre que nous, on a actuellement, c'est de garder cette diversité qui a été quand même non inscrite au catalogue, mais qui existe encore, et de la re-rentrer dans nos circuits. En tant que professionnel, il y a des semences que tu n'as pas le droit de produire et de vendre. Mais tu as le droit de les avoir et tu as le droit de les reproduire. La marge de manœuvre, elle se situe là-dedans. Chacun se place comme il le sent. Moi, j'essaye, en tout cas, nous, on essaye d'avoir des semences anciennes. On n'a plus qu'un hybride dans les champs. Et c'est juste parce qu'on l'étudie, qu'on l'a dedans, mais on essaye plutôt de revenir à ce qui était nos fondamentaux, ça veut dire d'avoir nos semences, de les produire, les reproduire, et du coup de proposer ça à nos clients. Et déjà, on ne se rend peut-être pas compte de cette richesse-là, mais moi qui viens d'un autre pays, qui viens de l'Amérique du Sud, de Colombie, et qui voit la réglementation comment elle est actuellement en Colombie, qui est encore plus sévère, parce que du coup, c'est vraiment les modèles économiques mondialisés, très capitalistiques, qui ont pris le dessus et qui font que les gens, ils peuvent plus se servir de ces semences-là en tant que professionnels. En France, on a encore des marges de manœuvre qu'il faut sauvegarder, et ça se sauvegarde en le cultivant et en le proposant aux gens. Et je trouve qu'il y a une richesse gustative importante, nutritive importante, et que ça, on ne se rend pas bien compte de ça. Parce que là, juste pour revenir sur la question des hybrides, du coup, on va créer des sujets très performants en termes de production et aussi des résistances aux maladies, par exemple. Mais en fait, c'est des plantes qui n'ont plus la possibilité d'un cycle dans lequel ils vont vraiment produire les nutriments qui vont nous faire du bien. Parce qu'elle va être belle, elle va être juteuse, elle va être sucrée, par exemple. Mais en réalité, quand tu vas l'étudier, les chaînes des protéines n'ont pas le temps de se faire, par exemple. Donc en fait, le côté nutritionnel, ça ne se voit pas. Et du coup, du fait que ça ne se voit pas, ça entretient un peu ce mythe que les tomates rondes, c'est génial. J'ai rien contre les tomates rondes, hein, mais il y en a beaucoup qui sont que hybrides. Et on en produit en masse. Du coup, l'idée, c'est de se réapproprier de ces semences-là et de chercher à ce que l'on fasse nous nourrisse vraiment. Parce qu'on se rend malade.
Merci beaucoup, Anna-Maria.
Merci beaucoup.
Je crois que maintenant, on va faire une petite pause avant de donner la parole à notre prochain intervenant, Peter Sinclair.